Et notre invité ce soir à 18h20, il est rabbin, fondateur de l'association Les Voix de la Paix. Il vient de publier un essai enthousiasmant sur la place des Juifs aujourd'hui en France. Bonsoir Yann Boissière.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors cet ouvrage, il s'intitule « Heureux comme un Juif en France, réflexion d'un rabbin engagé » aux éditions Talendier. C'est déjà un élément important que vous livrez dans ce titre. On peut être juif et heureux en France aujourd'hui ?
Oui, alors le titre comporte un point d'interrogation, et il est là toute la question. On aimerait pouvoir s'en passer. Malheureusement, dans les quelques décennies récentes, c'est pas toujours le cas, et le point d'interrogation malheureusement conserve toute sa fonction. Mais oui, tout n'est pas noir ni blanc. Il y a une riche histoire juive en France, faite d'éléments dramatiques, mais aussi de belles pages. Et tout le sujet est de dire que d'essayer de peser les choses.
Il y a des propos assez contradictoires dans le livre, on va en parler. C'est un ouvrage qui revient sur les questions profondes que traversent les Juifs de France, l'histoire, la Shoah, l'antisémitisme, le dialogue interreligieux, Israël évidemment. Mais il y a une expression que j'ai reprise, qui se trouve dans le petit résumé qui est fait à la dernière page du livre. C'est un cri d'amour pour la France. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez écrit aussi, ce livre ?
Alors, cri d'amour est fort, mais il y a un amour de la France, il y a une très très profonde imprégnation de l'histoire juive en France, qui est présente sur le territoire depuis deux millénaires, enfin avant même que les Francs ne donnent leur nom à ce doux pays. Il y avait des communautés juives, il y a une acculturation juive profonde, les Juifs, à côté d'autres éléments de la population, y ont écrit des pages glorieuses. Oui, il y a un attachement profond à France. Je décris combien dans les 200 dernières années, il est plus précis du fait que la France a été le premier pays à émanciper les Juifs, à leur donner la pleine citoyenneté. Ça compte énormément dans la psyché des Juifs en France. Évidemment, il y a quelques accros au contrat que je ne manque pas de raconter, mais il y a cet attachement profond, cet amour de la France, indéniablement.
Parce que Yann Boissière, il y a évidemment aujourd'hui dans notre pays un contexte et une montée, dites-vous, de l'antisémitisme, on en parle régulièrement et on s'en fait l'écho, c'est important de le dire, lié notamment à l'islam radical, mais aussi, on en parlera de l'islam radical, mais aussi à une partie de la gauche. Pourquoi pensez-vous que cet antisémitisme, il est, j'allais dire, consubstantiel à cette gauche radicale ?
Alors, je ne sais pas s'il est consubstantiel. Bon, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui varie à chaque époque. Il a une matrice de clichés profonds, éternels, on pourrait dire. Et puis, il s'habille dans la culture politique de l'époque. Il se trouve que la culture politique de l'époque...
C'est vrai que pendant longtemps, ça a été l'apanage de l'extrême droite. Est-ce que vous expliquez très bien ? Et puis, l'histoire est là pour nous le rappeler.
Oui,
mais cet antisémitisme a évolué.
Oui, il y a un antisémitisme de gauche qui, historiquement, plonge ses racines chez Hegel, sans aller jusqu'au 19e siècle. Le Fourier, il y a le juif et le capitaliste par essence. Alors, pour l'autre côté, il est aussi le révolutionnaire en puissance. Donc, l'antisémitisme n'a jamais été étouffé par le sens de la contradiction, ça c'est certain. Mais auprès d'une certaine gauche, il s'est habillé d'antisionisme à l'époque. Et c'est ça que la gauche, sans doute, une certaine gauche, en tout cas, a épousé dès 82, avec le livre Finkielkraut appelle l'opération Paix en Galilée, 82. Il y a eu une sorte d'inversion qui racontait que les Israéliens commettaient des exactions, exactement les mêmes exactions que peut-être les nazis avaient commis envers les juifs la Seconde Guerre. Il y a une sorte d'inversion des victimes et des bourreaux, et tout un discours s'est engouffré dans cette...
Antisionisme, c'est être antisémitisme ?
Alors, ça dépend comment, où on place l'antisionisme. La critique d'Israël, de la gouvernement de la politique israélienne est tout à fait légitime. Critiquer la légitimité de l'État d'Israël, c'est une ligne rouge tout à fait majeure, effectivement, qui bascule, qui peut s'habiller effectivement d'un caractère antisémite assez facilement. Quand on en vient à remettre en cause la légitimité, alors que l'État d'Israël est le fruit d'accords internationaux et d'une histoire longue, quand par principe on semble s'y opposer, alors il y a quand même anguille sous roche et immanquablement, très souvent, on détecte très facilement l'antisémitisme affleurant.
Alors on rappelle que les actes antisémites sont en progression malheureusement en notre pays, 687 faits comptabilisés par les services de police en 2019 contre 541 en 2018, qui représente une augmentation de 27%. Rappelons aussi que les Juifs de France sont la troisième communauté mondiale après les États-Unis et Israël. Ils sont dans notre pays, dans l'Hexagone, entre 500 000 et 600 000. Avec un phénomène qui illustre cette crainte des Juifs de France, c'est l'Alia, le fait d'émigrer vers Israël, vous en parlez également. Entre 2000 et 2017, j'ai retrouvé les chiffres, plus de 55 000 juifs ont quitté la France. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que rabbin, à ces familles qui vous disent « j'ai envie de partir parce que je ne me sens plus en sécurité dans mon pays, la France ».
Alors, l'Alia, au départ, c'est un choix personnel, de toute façon. C'était un très beau choix. Enfin, je veux dire, si quelqu'un décide de vivre sa judéité ou un aspect de sa judéité en Israël, c'est quelque chose d'effectivement de très positif. Le mot Alia veut dire monter, donc connaître une connotation positive. Maintenant, il est certain que depuis les années 2000, dans ce contexte que vous venez de rappeler, c'est plutôt le sentiment d'urgence. Peut-être que ça a accéléré des volontés, existantes. Je les admets, je les accepte, je peux les comprendre. Le discours que j'essaye de développer dans le livre, c'est que les Juifs de France ont une histoire à continuer ici. Ça, c'est le point de vue central. Maintenant, les difficultés, on ne saurait les nier. Et que dire à une personne qui, au quotidien, peut-être dans une banlieue, vit l'antisémitisme au jour le jour? Je ne suis pas là pour juger, en tant que rabbin, la vie, la prise de position des gens, je peux la comprendre.
Oui, et vous y rappelez d'ailleurs, puisque vous en parlez à l'instant, l'attachement des Juifs de France à la République et de la République à la communauté juive, à l'inverse, malgré une histoire complexe, avec la force des symboles. Vous revenez par exemple sur la dégradation du capitaine Dreyfus. Il y a aussi eu, dites-vous, sa réhabilitation, et vous citez Emmanuel Levinas du Fonds d'un pays balte qui dit ceci: un pays dans lequel on réhabilite un petit capitaine juif est un pays où il faut aller.
Absolument, il y a eu les pages sombres, les pages terribles, mais il y a eu aussi cette fin finalement assez heureuse, je dis, quand la République française se chauffe du droit bois de la justice et de la liberté humaine, et bien ça donne effectivement la réhabilitation du capitaine Dreyfus, qui a été très important, même politiquement, qui a ouvert les yeux sur une certaine culture antisémite en France. Il se trouve que là, la réhabilitation a été jugée comme très positive et a constitué un point d'attrait pour beaucoup de juifs qui, plus à l'est de l'Europe, vivait de franches tyrannies.
Une question donc, peut-être plus personnelle, Yann Boissière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, après la mort de votre mère, je crois, de vous convertir au judaïsme, un judaïsme libéral, mais pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin? C'était en 82?
C'était un peu plus tard, en 89, paix à son âme. C'est un chemin entièrement personnel. Ça a été une vibration personnelle totale.
Mais pourquoi vous en avez ressenti le besoin?
Pardon?
Pourquoi vous en avez ressenti le besoin?
Alors, c'est pas un besoin. Ça, c'est les mystères de la vie. C'est que dans la vie, on rencontre des événements ou des rencontres ou des choses que l'on n'attend pas. C'est de l'ordre de la rencontre quand on rencontre une personne que l'on aime. On ne l'attend pas par définition.
Et vous avez rencontré la foi.
Pour reconstruire rétrospectivement peut-être une sorte de cohérence, ça c'est les mystères de la vie, ce qui fait que la vie se déroule parfois par révélation. Je me suis révélé à moi-même en tant que très très proche de ce qu'était le judaïsme, et me révélé à moi-même en tant que juif, mais c'est pas quelque chose dont j'avais besoin en fait.
Oui. Il y a une phrase très forte sur l'islam radical que vous prononcer, qui est assez dur. On devrait, page 39, on devrait pouvoir dire sans trembler que l'antisémitisme d'origine musulmane est un fait culturel.
Oui, il faut séparer les mots, il faut être très clair. Nous avons la culture religieuse a disparu dans ce pays à la suite d'un combat, une laïcité de combat.
Mais un fait culturel.
Ce qui est très dommageable, parce que quand religieux revient dans la société de la pire manière, à travers les attentats, on n'est plus du tout à même de poser les bons mots au bon endroit. Soit par crainte d'anti-islamiste, on ne dénonce pas les choses que l'on devrait dénoncer, ou alors on se livre au racisme. Donc l'islam, c'est une chose, l'islamisme, c'en est une autre. L'islam radical en est une autre. Ce que je dis, c'est d'abord que l'islamisme n'est pas l'islam, mais c'est une maladie de l'islam. Il faut pouvoir opérer cette subtilité. Ce n'est pas l'islam, mais c'est une maladie de nulle autre chose que l'islam. Ensuite, concernant la phrase que vous citiez, c'était le...
On devrait pouvoir dire sans trembler que l'antisémitisme d'origine musulmane est un fait culturel.
C'est un fait historique. L'avantage de ce genre de phrase, c'est qu'on ne l'attribue pas à l'ADN des peuples. Ce n'est pas dans l'ADN des peuples arabes, pas plus que pour n'importe quel autre peuple. Mais il y a des cultures, effectivement, qui se sont développées, qui se sont agrégées. La culture du Dhimmi, qui a codifié l'infériorité des peuples du livre, et c'est un fait historique, tout simplement.
Bien, merci Yann Boissière d'avoir été avec nous. Heureux comme un juif en France, réflexion d'un rabbin engagé aux éditions Talendier. Merci à